Test de compréhension orale. Exercice 1. Vous allez entendre un jeune Français qui parle de ses études à Montpellier. D'abord, vous aurez 45 secondes pour lire l'exercice ci-dessous, puis vous entendrez l'enregistrement deux fois. Pendant l'écoute, décidez quelle est la réponse correcte A, B, C ou D pour chaque question 1 à 6. Mettez une croix dans la bonne case sur la feuille de réponse. La première réponse, 0, est donnée en exemple. Après la deuxième écoute, vous aurez 45 secondes pour contrôler vos réponses.
Loïc, tu es étudiant et tu as fait tes études à Montpellier. Comment est-ce que tu as décidé de faire tes études à Montpellier?
Alors, une fois que j'ai eu mon bac, j'hésitais entre faire des études d'histoire ou devenir journaliste. Et donc, je suis allé à l'université de Montpellier pour me renseigner. Et là, j'ai compris que l'histoire m'intéressait et que c'était aussi une manière de pouvoir être journaliste plus tard. Donc, j'ai pas hésité longtemps pour m'inscrire à l'université de Montpellier.
D'accord. Et comment se déroule l'inscription à un cours?
Alors, c'est assez compliqué. Il faut venir sur place. Souvent, l'administration est un peu chaotique. Donc, il faut revenir plusieurs fois. Et souvent, les premiers sont les mieux servis parce qu'il y a plusieurs horaires. Et donc, tous les étudiants veulent les mêmes horaires de cours. Et il faut être toujours le premier pour s'inscrire au bon horaire.
Est-ce qu'en France, chaque étudiant a le droit d'étudier ce qu'il veut? Est-ce qu'on peut choisir librement?
À l'université, oui, on a le choix. Par contre, si on fait des études dans des écoles spécialisées ou dans des classes préparatoires, le recrutement se fait sur dossier et il faut avoir, par exemple, avoir une bonne mention au bac, chose qui n'est pas indispensable pour étudier à l'université.
Et ça veut dire quoi?
Ça veut dire que, par exemple, pour entrer en classe préparatoire, donc pour être plus tard travailler dans la politique ou dans l'administration. Si on n'a pas eu la mention bien au baccalauréat, on ne peut pas aller dans ces classes, alors que pour aller à l'université, il suffit d'avoir le bac.
D'accord. Et toi, tu as fait les études à Montpellier. Est-ce que tu peux décrire un peu la ville et les campus?
Oui, bien sûr. Alors Montpellier est une ville étudiante. Il y a beaucoup d'universités. Et donc, pour moi, l'histoire, ça s'est passé dans la faculté de lettres de Montpellier, avec un campus très grand. Il y a beaucoup d'espaces verts. Et donc, entre deux cours, c'est pratique pour se reposer ou pour discuter un peu. Le seul problème, c'est que les bâtiments sont un peu vieux, il n'y a pas assez d'entretien, et c'est aussi une faculté qui n'a pas beaucoup de moyens financiers pour faire les travaux de rénovation. Donc ça, c'était le seul problème de cette université.
D'accord. Et est-ce que la vie est chère à Montpellier?
Oui, la vie est assez chère, car il y a beaucoup d'étudiants et donc beaucoup de demandes pour les logements. Moi, j'avais la chance d'avoir mes parents qui habitaient pas loin, donc pendant toutes mes études à Montpellier, j'ai continué d'habiter chez mes parents. Mais pour mes amis qui devaient louer un appartement parce qu'ils n'habitaient pas à Montpellier, c'était assez cher, effectivement.
Ok. Et est-ce que beaucoup d'étudiants français travaillent en même temps?
Oui, je crois qu'il y a la moyenne, c'est 1 sur 3, donc ce qui est quand même beaucoup, parce que c'est difficile de réussir à la fois ses études et de travailler à côté, et le taux d'échec aux examens est plus élevé chez les étudiants qui travaillent.
Ok. Bon, Loïc, tu es étudiant et tu as fait tes études à Montpellier. Comment est-ce que tu as décidé de faire tes études à Montpellier?
Alors, une fois que j'ai eu mon bac, j'hésitais entre faire des études d'histoire ou devenir journaliste. Et donc, je suis allé à l'université de Montpellier pour me renseigner. Et là, j'ai compris que l'histoire m'intéressait et que c'était aussi une manière de pouvoir être journaliste plus tard. Donc, j'ai pas hésité longtemps pour m'inscrire à l'université de Montpellier.
D'accord. Et comment se déroule l'inscription à un cours?
Alors c'est assez compliqué, il faut venir sur place. Souvent l'administration est un peu chaotique, donc il faut revenir plusieurs fois. Et souvent les premiers sont les mieux servis parce qu'il y a plusieurs horaires. Et donc tous les étudiants veulent les mêmes horaires de cours et il faut être toujours le premier pour s'inscrire au bon horaire.
Est-ce qu'en France, chaque étudiant a le droit d'étudier ce qu'il veut? Est-ce qu'on peut choisir librement?
À l'université, oui, on a le choix. Par contre, si on fait des études dans des écoles spécialisées ou dans des classes préparatoires, le recrutement se fait sur dossier et il faut avoir, par exemple, avoir une bonne mention au bac, chose qui n'est pas indispensable pour étudier à l'université.
Et ça veut dire quoi?
Ça veut dire que, par exemple, pour entrer en classe préparatoire, donc pour être plus tard travailler dans la politique ou dans l'administration. Si on n'a pas eu la mention bien au baccalauréat, on ne peut pas aller dans ces classes, alors que pour aller à l'université, il suffit d'avoir le bac.
D'accord. Et toi, tu as fait les études à Montpellier. Est-ce que tu peux décrire un peu la ville et les campus?
Oui, bien sûr. Alors Montpellier est une ville étudiante. Il y a beaucoup d'universités. Et donc, pour moi, l'histoire, ça s'est passé dans la faculté de lettres de Montpellier, avec un campus très grand. Il y a beaucoup d'espaces verts. Et donc, entre deux cours, c'est pratique pour se reposer ou pour discuter un peu. Le seul problème, c'est que les bâtiments sont un peu vieux, et il n'y a pas assez d'entretien. Et c'est aussi une faculté qui n'a pas beaucoup de moyens financiers pour faire les travaux de rénovation. Donc ça, c'était le seul problème de cette université.
D'accord. Et est-ce que la vie est chère à Montpellier?
Oui, la vie est assez chère car il y a beaucoup d'étudiants et donc beaucoup de demandes pour les logements. Moi, j'avais la chance d'avoir mes parents qui habitaient pas loin. Donc pendant toutes mes études à Montpellier, j'ai continué d'habiter chez mes parents. Mais pour mes amis qui devaient louer un appartement parce qu'ils n'habitaient pas à Montpellier, c'était assez cher, effectivement.
Ok. Et est-ce que beaucoup d'étudiants français travaillent en même temps?
Oui, je crois qu'il y a la moyenne, c'est 1 sur 3, donc ce qui est quand même beaucoup, parce que c'est difficile de réussir à la fois ses études et de travailler à côté, et le taux d'échec aux examens est plus élevé chez les étudiants qui travaillent.
Ok.
Exercice 2. Vous allez entendre Marie parler de son échange universitaire en Corée du Sud. D'abord, vous aurez 45 secondes pour lire l'exercice ci-dessous, puis vous entendrez l'enregistrement deux fois. Pendant l'écoute, trouvez les éléments corrects dans la liste A à J pour compléter les phrases 1 à 7. Il y a deux éléments dont vous n'aurez pas besoin. Écrivez vos réponses dans les cases prévues sur la feuille de réponse. La première réponse, 0, est donnée en exemple. Après la deuxième écoute, vous aurez 45 secondes pour contrôler vos réponses.
Bonjour, je m'appelle Marie. Je reviens d'un séjour linguistique à Séoul. C'était un échange universitaire que j'ai fait pendant 6 mois. Je suis partie avec 2 amis que je connaissais de mon cours de chinois. Au début, on ne parlait pas coréen du tout, alors on a eu beaucoup de difficultés à s'adapter, ou même à lire ou à commander dans les restaurants. Donc, commander à manger, c'était quand même très difficile. En plus, on ne savait pas trop ce qu'on pouvait manger. Et moi, en plus, je parlais mal l'anglais, ce qui fait que j'ai eu pas mal de problèmes. Pas de très gros problèmes, mais c'était un peu difficile. Après, un mois plus tard, on a enfin commencé les cours intensifs à l'université. C'était 4 heures de coréen par jour, tous les matins. Nous étions dans une classe avec beaucoup d'autres étudiants internationaux. Et il y avait aussi, surtout dans ma classe en fait, parce que j'étais séparée de mes 2 amis. Donc dans ma classe, il y avait aussi beaucoup de policiers qui sont venus à Séoul pour faire un stage dans la police de Séoul. Ils avaient des cours de coréen avec nous aussi. Donc on avait tous des âges très différents et on venait tous de pays différents. Donc je me souviens qu'il y avait un Philippin, il y en avait un du Kazakhstan, il y avait un Vietnamien, il y avait même une Thaïlandaise. Bref, on était vraiment de partout du monde, sauf des Chinois, parce que les Chinois avaient leur classe spéciale, parce qu'ils étaient très nombreux et ils parlaient déjà un peu coréen. Bon, dans tous les cas, notre classe, elle était très sympa, c'était comme une petite famille, et nos cours de coréen étaient super. Nous avons pu très vite faire de très gros progrès. Les professeurs, curieusement, n'ont jamais parlé en anglais. Donc, je ne sais pas trop comment ils ont fait pour réussir à nous faire comprendre la grammaire et même le vocabulaire, mais ça a toujours marché. Je sais qu'on avait des fois des vidéos ou des images, ou peut-être comme on vivait en Corée, on comprenait un peu par le contexte, ou c'était des mots qu'on connaissait inconsciemment, je sais pas trop, mais en tout cas, on a fait vraiment de beaux progrès. Au bout de 2 mois, je pense qu'on avait peut-être un niveau A1, A2, début A2 en tout cas. La vie à Séoul, après, j'ai vraiment aimé ça. Déjà, manger dehors, parce que la cantine, c'était pas trop mon truc, mais on pouvait manger dans un restaurant, et les restaurants étaient vraiment pas chers. Je crois pour un menu complet, on avait environ 2 euros par menu. Donc on mangeait tout le temps dans les restaurants. La nourriture coréenne, elle est très différente de ce qu'on a en France. Et elle est différente aussi de ce qu'on peut connaître des repas chinois ou japonais. Par exemple, ils aiment bien les choses avec de l'ail. Bonjour, je m'appelle Marie. Je reviens d'un séjour linguistique à Séoul. C'était un échange universitaire que j'ai fait pendant 6 mois. Je suis partie avec 2 amis que je connaissais de mon cours de chinois. Au début, on ne parlait pas coréen du tout, alors on a eu beaucoup de difficultés à s'adapter, ou même à lire ou à commander dans les restaurants. Donc, commander à manger, c'était quand même très difficile. En plus, on ne savait pas trop ce qu'on pouvait manger. Et moi, en plus, je parlais mal l'anglais, ce qui fait que j'ai eu pas mal de problèmes. Pas de très gros problèmes, mais c'était un peu difficile. Après, un mois plus tard, on a enfin commencé les cours intensifs à l'université. C'était 4 heures de coréen par jour, tous les matins. Nous étions dans une classe avec beaucoup d'autres étudiants internationaux. Et il y avait aussi, surtout dans ma classe en fait, parce que j'étais séparée de mes 2 amis, donc dans ma classe, il y avait aussi beaucoup de policiers qui sont venus à Séoul pour faire un stage dans la police de Séoul. Ils avaient des cours de coréen avec nous aussi. Donc on avait tous des âges très différents et on venait tous de pays différents. Donc je me souviens qu'il y avait un Philippin, il y en avait un du Kazakhstan, il y avait un Vietnamien, il y avait même une Thaïlandaise. Bref, on était vraiment de partout du monde. Sauf des Chinois, parce que les Chinois avaient leur classe spéciale, parce qu'ils étaient très nombreux, et ils parlaient déjà un peu coréen. Bon, dans tous les cas, notre classe, elle était très sympa, c'était comme une petite famille, et nos cours de coréen étaient super, nous avons pu très vite faire de très gros progrès. Les professeurs, curieusement, n'ont jamais parlé en anglais, Donc, je sais pas trop comment ils ont fait pour réussir à nous faire comprendre la grammaire et même le vocabulaire, mais ça a toujours marché. Je sais qu'on avait des fois des vidéos ou des images, ou peut-être comme on vivait en Corée, on comprenait un peu par le contexte, ou c'était des mots qu'on connaissait inconsciemment, je sais pas trop, mais en tout cas, on a fait vraiment de beaux progrès. Au bout de 2 mois, je pense qu'on avait peut-être un niveau A1, A2, début A2 en tout cas. La vie à Séoul, après, j'ai vraiment aimé ça. Déjà, manger dehors, parce que la cantine, c'était pas trop mon truc, mais on pouvait manger dans un restaurant, et les restaurants étaient vraiment pas chers. Je crois pour un menu complet, on avait environ 2 euros par menu. Donc on mangeait tout le temps dans les restaurants. La nourriture coréenne, elle est très différente de ce qu'on a en France. Et elle est différente aussi de ce qu'on peut connaître des repas chinois ou japonais. Par exemple, ils aiment bien les choses avec de l'ail.
Exercice 3. Vous allez entendre un homme parler de sa ville préférée, La Rochelle. D'abord, vous aurez 45 secondes pour lire l'exercice ci-dessous, puis vous entendrez l'enregistrement 2 fois. Pendant l'écoute, répondez aux questions 1 à 7 en 4 mots au maximum. Écrivez vos réponses dans les cases prévues sur la feuille de réponse. La première réponse 0 est donnée en exemple. Après la deuxième écoute, vous aurez 45 secondes pour contrôler vos réponses.
Alors quand on me demande quelle est ma ville française préférée, j'hésite toujours entre Bordeaux et La Rochelle, mais quand même je réponds toujours La Rochelle. Alors c'est une ville où j'ai vécu moi-même pendant quelques mois à l'occasion d'un semestre universitaire et j'en garde un excellent souvenir. C'est vraiment une très chouette ville où il fait vraiment bon vivre. Alors la situation économique à La Rochelle est pas très très bonne. Je crois qu'il y a plus de chômage à La Rochelle que dans d'autres villes similaires en France. Mais malgré tout, je dois dire qu'il y a une atmosphère particulière. Alors je me rappelle, j'habitais en centre-ville, dans un vieil immeuble, tout en haut, sous le toit, dans un petit studio. Et le matin, pour aller à l'université, je partais à pied, je longeais la plage, donc je marchais au bord de la mer, comme ça. C'était vraiment très agréable. De la même façon, lorsqu'on allait à la bibliothèque universitaire, on pouvait prendre un bateau. Alors dans d'autres villes, on prendrait le bus, mais à La Rochelle, on peut prendre le bateau, alors c'est vraiment sympa, hein. D'ailleurs, les touristes ne s'y trompent pas, il y a énormément de tourisme à La Rochelle, c'est l'activité, je pense, économique principale à La Rochelle, le tourisme. Alors il y a plein de choses à faire, notamment un super aquarium à visiter. C'est un chouette aquarium. Alors pour y accéder, on prend un ascenseur, et cet ascenseur, il simule une descente dans les fonds marins. Alors l'ambiance est très spéciale dans l'ascenseur, alors ça bouge, les lumières s'éteignent, et finalement ça fait un peu peur, comme si on s'enfonçait au fond de la mer. À part l'aquarium, bon, il y a plein de choses à faire. Et je me rappelle aussi le musée du Nouveau Monde. Alors, il se trouve en ville, je crois, dans une petite rue piétonne. Et ce musée du Nouveau Monde retrace l'histoire des siècles passés de La Rochelle, notamment l'histoire économique et la place de La Rochelle dans le commerce triangulaire. Vous savez, le commerce triangulaire, c'était entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique, et cette période noire de l'esclavage et de la prospérité des villes atlantiques. Alors dans le passé, voilà, La Rochelle était une ville très très riche qui vivait de ce commerce-là. Voilà, j'ai vraiment adoré y vivre. Alors la position atlantique de cette ville rend le climat très spécial, hein. Alors il fait doux. Alors quand on me demande quelle est ma ville française préférée, j'hésite toujours entre Bordeaux et La Rochelle, mais quand même je réponds toujours La Rochelle. Alors c'est une ville où j'ai vécu moi-même pendant quelques mois à l'occasion d'un semestre universitaire et j'en garde un excellent souvenir. C'est vraiment une très chouette ville où il fait vraiment bon vivre. Alors la situation économique à La Rochelle est pas très très bonne. Je crois qu'il y a plus de chômage à La Rochelle que dans d'autres villes similaires en France. Mais malgré tout, je dois dire qu'il y a une atmosphère particulière. Alors je me rappelle, j'habitais en centre-ville, dans un vieil immeuble, tout en haut, sous le toit, dans un petit studio. Et le matin, pour aller à l'université, je partais à pied, je longeais la plage, donc je marchais au bord de la mer, comme ça. C'était vraiment très agréable. De la même façon, lorsqu'on allait à la bibliothèque universitaire, on pouvait prendre un bateau. Alors dans d'autres villes, on prendrait le bus, mais à La Rochelle, on peut prendre le bateau, alors c'est vraiment sympa, hein. D'ailleurs, les touristes ne s'y trompent pas, il y a énormément de tourisme à La Rochelle, c'est l'activité, je pense, économique principale à La Rochelle, le tourisme. Alors il y a plein de choses à faire, notamment un super aquarium à visiter. C'est un chouette aquarium. Alors pour y accéder, on prend un ascenseur, et cet ascenseur il simule une descente dans les fonds marins. Alors l'ambiance est très spéciale dans l'ascenseur, alors ça bouge, les lumières s'éteignent, et finalement ça fait un peu peur, comme si on s'enfonçait au fond de la mer. À part l'aquarium, bon, il y a plein de choses à faire. Et je me rappelle aussi le musée du Nouveau Monde. Alors, il se trouve en ville, je crois, dans une petite rue piétonne. Et ce musée du Nouveau Monde retrace l'histoire des siècles passés de La Rochelle, notamment l'histoire économique et la place de La Rochelle dans le commerce triangulaire. Vous savez, le commerce triangulaire, c'était entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique, et cette période noire de l'esclavage et de la prospérité des villes atlantiques. Alors dans le passé, voilà, La Rochelle était une ville très très riche qui vivait de ce commerce-là. Voilà, j'ai vraiment adoré y vivre. Alors la position atlantique de cette ville rend le climat très spécial, hein. Alors il fait doux.
Exercice 4. Vous allez entendre 6 personnes parler de la photographie. D'abord, vous aurez 45 secondes pour lire l'exercice ci-dessous, puis vous entendrez l'enregistrement 2 fois. Pendant l'écoute, reliez les personnes 1 à 7 avec leurs affirmations A à I. il y a une affirmation dont vous n'aurez pas besoin. Écrivez vos réponses dans les cases prévues sur la feuille de réponse. La première réponse 0 est donnée en exemple. Après la deuxième écoute, vous aurez 45 secondes pour contrôler vos réponses. Personne, une.
Ma France en photo.
Alors, dès que c'est un vrai appareil, je sais pas prendre une photo. Parfois, je me fais un grand kiff, j'achète des appareils jetables. J'ai les 27 poses, là. Je vais dans une grande surface, j'achète, j'ai fait 27 et j'ai fait développer. Ça me rappelle les souvenirs des années 80.
Personne, deux.
Ma France en photo.
J'adore prendre en photo par l'avion. J'adore voir les paysages français d'un avion. Ça m'arrive assez souvent de faire des Paris-Pau, des choses comme ça, ou alors des petites distances en Europe. Et il y a des trajets que j'ai fait, peut-être plusieurs dizaines, voire des centaines de fois, genre comme des Paris-Alger, des choses comme ça. Et je les ai fait d'été, d'hiver et tout ça. Et du coup, il y a vraiment des coins de France où je suis d'ailleurs jamais allé avec mes pieds, mais où je suis déjà allé en avion plein de fois, par exemple le Massif Central. Et à chaque fois, je prends des photos par l'avion.
Personne 3.
Ma France en photo.
J'aime la photo. J'ai développé mon sens artistique grâce à mon iPhone et tous les filtres d'Instagram. Ouais. Et ça m'a vraiment donné envie de me mettre à la photo. Et j'ai toujours aimé l'image. Je suis peintre à la base. Et donc, je me suis acheté un appareil photo dernièrement. Je prends un petit peu tout. Après, j'aime bien les reportages dans les communions, les mariages, les fêtes de famille et tout ça. Mais vraiment, artistiquement, ce que j'ai découvert est qu'en vrai, j'aime pas du tout en peinture, j'aime pas les natures mortes. Et pourtant, en photo, j'adore ça. J'aime beaucoup les reflets. J'aime la réflexion d'un canard dans l'eau.
Personne 4.
Ma France en photo.
Mais moi, j'aime prendre en photo les paysages qui me font du bien. Donc, comme je suis une fille du Sud, j'aime la mer et l'eau en général. J'aime les lacs aussi, les étangs, la campagne avec des étangs, j'adore ça. J'aime les champs de colza, j'aime les fleurs. Je trouve qu'il y a des paysages qui sont comme des caresses pour les yeux. Alors là, j'ai envie de prendre une photo. Et il y a des photos de paysages, il y a des photos de rencontres, d'artistes que j'aime, de sportifs. J'aime beaucoup le tennis, par exemple. Il y a des moments de matchs de tennis auxquels j'ai assisté. Je me souviens, je sais pas pourquoi, parce qu'on est en plein Roland-Garros. C'est l'anniversaire de Nadal l'année dernière à Roland-Garros, où ils ont apporté un énorme gâteau sur le court, du central.
Personne 5.
Ma France en photo.
Ce que je préfère prendre en photo sont mes plats, les produits, les matières premières, les assiettes, les rencontres avec un chef, les voyages culinaires, tout ça, tout ce qui tourne autour de la cuisine, ce que je préfère prendre en photo.
Moi, la photo, c'est vraiment, je le vois en mode instantané, c'est-à-dire scène de vie du moment, quoi. C'est-à-dire, je suis dans ma cuisine, d'un seul coup, je poêle des carottes, je les trouve jolies, boum, je shoot, quoi. C'est incroyable cette diversité. Je pense qu'on est le seul pays au monde à avoir cette diversité culinaire, quoi. D'ailleurs, on a l'impression que même en une vie, on ne pourra pas découvrir tous les terroirs, tous les villages, tous les marchés, tous les produits, tous les fromages, tous les agriculteurs, qui fassent le plus beau plat possible et qui me l'envoient sur.
Personne 6.
Ma France en photo.
Alors moi, vous savez, je fais plus de photos. Maintenant, je montre les photos des autres. D'abord parce qu'elles sont meilleures que les miennes. Donc même si je joue le jeu le 14 juillet, je suis pas un bon photographe. Non, en fait, maintenant, si vous voulez, partout où je vais, j'ai des photographes qui m'envoient des sujets tellement mieux que ce que je peux faire, que je prends plus de photos, je regarde celles des autres. Je vis par regard de photographe interposé.
Personne, une.
Ma France en photo.
Alors, dès que c'est un vrai appareil, je sais pas prendre une photo. Parfois, je me fais un grand kiff, j'achète des appareils jetables. J'en ai, je sais, les 27 poses, là. Je vais dans une grande surface, j'achète, j'ai fait 27 et j'ai fait développer. Ça me rappelle les souvenirs des années 80.
Personne, deux.
Ma France en photo.
J'adore prendre en photo par l'avion. J'adore voir les paysages français d'un avion. Ça m'arrive assez souvent de faire des Paris-Pau, des choses comme ça, ou alors des petites distances en Europe. Il y a des trajets que j'ai fait, je sais pas, peut-être plusieurs dizaines, voire des centaines de fois, genre comme des Paris-Alger, des choses comme ça. Et je les ai fait d'été, d'hiver et tout ça. Et du coup, il y a vraiment des coins de France où je suis d'ailleurs jamais allé avec mes pieds, mais où je suis déjà allé en avion plein de fois, par exemple le Massif Central. Et à chaque fois, je prends des photos par l'avion.
Personne 3.
Ma France en photo.
J'aime la photo. J'ai développé mon sens artistique grâce à mon iPhone et tous les filtres d'Instagram. Et ça m'a vraiment donné envie de me mettre à la photo. Et j'ai toujours aimé l'image. Je suis peintre à la base. Et donc, je me suis acheté un appareil photo dernièrement. Je prends un petit peu tout. Après, j'aime bien les reportages dans les communions, les mariages, les fêtes de famille et tout ça. Mais vraiment, artistiquement, ce que j'ai découvert est qu'en vrai, j'aime pas du tout en peinture, j'aime pas les natures mortes. Et pourtant, en photo, j'adore ça. J'aime beaucoup les reflets. J'aime la réflexion d'un canard dans l'eau.
Personne. 4.
Ma France en photo.
Mais moi, j'aime prendre en photo les paysages qui me font du bien. Donc, comme je suis une fille du Sud, j'aime la mer. et l'eau en général. J'aime les lacs aussi, les étangs. La campagne avec des étangs, j'adore ça. J'aime les champs de colza, j'aime les fleurs. Je trouve qu'il y a des paysages qui sont comme des caresses pour les yeux. Alors là, j'ai envie de prendre une photo. Et il y a des photos de paysages, il y a des photos de rencontres, d'artistes que j'aime, de sportifs. J'aime beaucoup le tennis, par exemple. Il y a des moments de matchs de tennis auxquels j'ai assisté. Je me souviens, je sais pas pourquoi, parce qu'on est en plein Roland-Garros. De l'anniversaire de Nadal l'année dernière à Roland-Garros, où ils ont apporté un énorme gâteau sur le cours, du central.
Personne 5.
Ma France en photo.
Ce que je préfère prendre en photo sont mes plats, les produits, les matières premières, les assiettes, les rencontres avec un chef, les voyages culinaires, tout ça, tout ce qui tourne autour de la cuisine, ce que je préfère prendre en photo.
Moi, la photo, c'est vraiment, je le vois en mode instantané, c'est-à-dire scène de vie du moment, quoi. C'est-à-dire, je suis dans ma cuisine, d'un seul coup, je poêle des carottes, je les trouve jolies, boum, je shoot, quoi. C'est incroyable cette diversité. Je pense qu'on est le seul pays au monde à avoir cette diversité culinaire, quoi. D'ailleurs, on a l'impression que même en une vie, on ne pourra pas découvrir tous les terroirs, tous les villages, tous les marchés, tous les produits, tous les fromages, tous les agriculteurs qui fassent le plus beau plat possible et qui me l'envoient sur.
Personne 6.
Ma France en photo.
Alors moi, vous savez, je fais plus de photos. Maintenant, je montre les photos des autres. D'abord parce qu'elles sont meilleures que les miennes. Donc même si je joue le jeu le 14 juillet, je suis pas un bon photographe. Non, en fait, maintenant, si vous voulez, partout où je vais, j'ai des photographes qui m'envoient des sujets tellement mieux que ce que je peux faire, que je prends plus de photos, je regarde celles des autres. Je vis par regard de photographe interposé.
C'est la fin du test de compréhension orale.